Mark Twain, le meurtre de Jules César en fait divers. Seul récit complet et authentique paru à ce jour. Extrait du journal romain Les Faisceaux du Soir, quotidien à la date de ce terrible accident. Rien au monde ne procure autant de satisfaction à un reporter que de réunir les détails d'un meurtre sanglant et mystérieux et de les exposer avec toutes les circonstances aggravantes. Il prend un vif plaisir à ce travail charmant, surtout s'il sait que tous les autres journaux sont sous presse et que le sien sera le seul à donner les affreux détails. J'ai souvent éprouvé un sentiment de regret de n'avoir pas été reporter à Rome au temps du meurtre de César, reporter à un journal du soir, et le seul journal du soir dans la ville. J'aurais battu d'au moins 12 têtes d'heure à la tourse les reporters aux journaux du matin avec le plus merveilleux fait divers qui jamais échut à quelqu'un du métier. D'autres événements se sont produits, aussi étonnants que celui-là, mais aucun n'a présenté, si particulièrement, tous les caractères du fait divers comme on le conçoit aujourd'hui, rehaussés et magnifiés par le rang élevé, la réputation, la situation sociale et politique des personnages. Puisqu'il ne m'a pas été permis de reporter l'assassinat de César d'une façon régulière, j'ai eu du moins une satisfaction rare à en traduire le fidèle récit suivant du texte latin des Faisceaux du Soir quotidien de cette date, seconde édition. Notre ville de Rome, si paisible d'habitude, a été hier profondément émue et troublée par un de ces crimes sanglants qui navrent le cœur et emplissent l'âme d'effroi, en même temps qu'ils inspirent à tous les hommes sages des appréhensions pour l'avenir d'une cité où la vie humaine compte si peu et où les lois les plus sérieuses sont ouvertement violées. Un tel crime ayant été commis, il est de notre devoir douloureux à nous journalistes de raconter la mort d'un de nos plus estimés concitoyens, d'un homme dont le nom est connu aussi loin que peut aller ce journal et dont nous avons eu le plaisir et aussi le privilège d'étendre la renommée et de protéger la réputation contre les calomnies et les mensonges au mieux de notre faible pouvoir. Nous voulons parler de M. Jules César, empereur élu. Voici les faits, aussi exactement que notre reporter a pu les dégager des récits contradictoires des témoins. Il s'agissait d'une querelle électorale, naturellement. Les 9/10 des effroyables massacres qui déshonorent chaque jour notre cité viennent des querelles, des jalousies et des haines engendrées par ces maudites élections. Rome gagnerait beaucoup à ce que les agents de police eux-mêmes fussent nommés pour 100 ans. Car c'est un fait d'expérience que nous n'avons jamais pu élire même un ramasseur de chiens sans célébrer cet événement par une douzaine de têtes cassées et tous les postes de police encombrés de vagabonds ivres jusqu'au matin. On dit que lorsque l'écrasante majorité aux élections sur la place du marché fut proclamée l'autre jour et que on offrit la couronne à ce gentleman, même son bizarre désintéressement qui le fit refuser 3 fois ne suffit pas à le sauver des insultes murmurées par des hommes comme Casca du 10e arrondissement et d'autres séides des candidats battus, venus surtout du 11e et du 13e et des districts de banlieue. On les surprit à s'exprimer avec ironie et mépris sur la conduite de M. César en cette occasion. On assure d'autre part, et beaucoup de nos amis se croient autorisés à admettre, que l'assassinat de Jules César était une chose arrangée, suivant un plan longuement mûri, élaboré par Marcus Brutus et une bande de coquins à ses gages, et dont le programme n'a été que trop fidèlement exécuté. Si ce soupçon repose sur des bases solides ou non, nous laissons le lecteur juger. Nous lui demandons uniquement de vouloir bien lire le suivant récit du triste événement avec attention et sans parti pris avant de se prononcer. Le Sénat était déjà réuni et César descendait la rue qui conduit au Capitole, causant avec quelques amis et suivi comme à l'ordinaire d'un grand nombre de citoyens, et juste comme il passait devant la droguerie Démosthène et Thucydide, il fit remarquer un gentleman qui, à ce que croit notre rédacteur, était un prédiseur d'avenir, que les ides de mars étaient venues. « Oui, répondit l'autre, mais elles ne sont pas passées. » À ce moment, Artémidorus s'avance, dit à César que le temps pressait et lui demanda de lire un papier, une brochure ou quelque chose dans ce genre, qu'il avait apporté pour la lui montrer. Décius Brutus dit aussi quelques mots au sujet d'une humble requête qu'il voulait soumettre à César. Artémidorus demanda la priorité, disant que son écrit concernait César personnellement. Alors celui-ci répliqua que ce qui regardait César lui-même devait passer en dernier, ou prononça quelques phrases analogues. Artémidorus le supplia de lire ce papier immédiatement, mais César l'écarta et refusa de lire aucune pétition dans la rue. Il entra alors au Capitole, et la foule derrière lui. Environ ce temps fut surprise la conversation suivante, qui, rapprochée des événements qui succédèrent, prend une terrible signification. M. Papilius Léna fit remarquer à George W. Cassius, communément connu sous le nom de « le gros gars du troisième arrondissement », un émeutier à la solde de l'opposition, qu'il souhaitait bon succès à son entreprise de ce jour. Et Cassius ayant demandé « quelle entreprise ?», l'autre se contenta de cligner l'œil gauche en disant avec une indifférence simulée « bonne chance !» et s'en fut du côté de César. Marcus Brutus, que l'on soupçonne d'avoir été le meneur de la bande qui commit le crime, demanda ce que Léna venait de dire. Cassius lui répéta et ajouta à voix basse « Je crains que notre projet soit découvert. » Brutus dit à son misérable complice d'avoir l'œil sur Léna. Et au moment après, Cassius enjoignit à Casca, ce vif et famélique vagabond dont la réputation est détestable, d'agir promptement, car il craignait d'être prévenu. Casca se tourna vers Brutus, l'air très excité, et demanda des instructions et jura que, de César ou de lui, un resterait sur la place. Il avait fait le sacrifice de sa vie. À ce moment, César causait, avec quelques représentants des districts ruraux, des élections au siège renouvelable et portait peu d'attention sur ce qui se passait autour de lui. William Trebonius engagea une conversation avec un ami du peuple et de César, Marcus Antonius, et, sous un prétexte ou un autre, l'écarta. Brutus, Decius, Casca, Cinna, Metellus Cimber et d'autres de cette bande d'infâmes forcenés qui infectent Rome actuellement, entourèrent de près l'infortuné. Alors Metellus Cimber mit un genou en terre et demanda la grâce de son frère exilé. Mais César lui fit honte de sa bassesse et refusa. Aussitôt, sur un signe de Cimber, Brutus d'abord, puis Cassius implorèrent le retour de Publius Banni. Mais César, de rechef, refusa. Il dit que rien ne pourrait l'ébranler, qu'il était aussi immobile que l'étoile polaire. Puis il se mit à faire l'éloge, dans les termes les plus flatteurs, de la stabilité de cette étoile et de la fermeté de son caractère. Il ajouta qu'il était semblable à elle et qu'il pensait être le seul homme dans le pays qui le fût. D'ailleurs, puisqu'il était constant que Cimber avait dû être banni, il était aussi constant qu'il devait rester banni, et lui, César, voulait être pendu s'il ne le gardait pas en exil. saisissant aussitôt ce futile prétexte de violence, casqua bondit vers César et le frappa d'un coup de poignard. Mais César, de la main droite, lui retint le bras et du poing gauche, ramené jusqu'à l'épaule, puis projeté, frappa un coup qui envoya le misérable rouler ensanglanté sur le sol. Il s'adossa ensuite à la statue de Pompée et se mit en garde. Cassius, Cimber et Sidna se précipitèrent vers lui, le poignard levé, et le premier réussit à le frapper. Mais avant qu'il pût porter un autre coup et qu'aucun des autres pût l'atteindre, César étendit à ses pieds les trois mécréants d'autant de coups de son poing solide. Pendant ce temps, le Sénat était dans un affolement inexprimable. La nuée des citoyens dans les couloirs et leurs efforts frénétiques pour s'échapper avaient bloqué les portes. Le sergent d'armes et ses hommes luttaient contre les assassins. De vénérables sénateurs avaient jeté leurs robes encombrantes et sauté par-dessus les bancs, fuyant dans une confusion sauvage à travers les ailes latérales pour chercher refuge dans les salles des commissions. Un millier de voix criaient « La police ! La police !» sur des tons discordants qui s'élevaient au-dessus du fracas effroyable comme le sifflement des vents au-dessus d'une tempête qui gronde. Et parmi tout cela se tenait debout le grand César, adossé à la statue comme un lion acculé et sans armes, de ses mains luttant contre les assaillants avec l'allure hautaine et le courage intrépide qu'il avait montré tant de fois sur les champs de bataille sanglants. William Trebonius et Caius Ligarius le frappèrent de leurs poignards. Ils tombèrent comme leur complice était tombé. Mais à la fin, lorsque César vit son vieil ami Brutus marcher vers lui, armé d'une dague meurtrière, on dit qu'il parut succomber sous la douleur et la stupeur. Laissant tomber son bras invincible, il cacha sa face dans les plis de son manteau et reçut le coup du traître sans un effort pour écarter la main qui le porta. Il dit simplement « Toi aussi, Brutus ?» et tomba mort sur le marbre du pavé. On affirme que le vêtement qu'il portait, quand il fut tué, était le même qu'il avait sur lui l'après-midi dans sa tente le jour de sa victoire sur les Nerviens. Quand on le lui retira, on trouva qu'il était percé et déchiré à 7 endroits différents. Il n'y avait rien dans les poches. Le vêtement sera produit en justice à la requête du coroner et fournira une preuve irréfutable du meurtre. Ces derniers détails sont dignes de foi. Nous les tenons de Marcus Antonius, que sa position met à même de connaître toutes les particularités se rapportant au sujet le plus absorbant de l'actualité d'aujourd'hui. Dernière nouvelle. Tandis que le coroner convoquait le jury, Marcus Antonius et d'autres amis de feu César s'emparaient du corps et le transportaient au forum. À la dernière heure, Antonius et Brutus étaient en train de faire des discours sur le cadavre et suscitaient un tel vacarme parmi le peuple qu'au moment où nous mettons sous presse, le préfet de police est convaincu qu'il va y avoir une émeute et prend les mesures en conséquence. Note. Détail à noter, William Shakespeare, qui assista au déplorable événement depuis le commencement jusqu'à la fin, insinue que cet écrit n'était autre qu'une note découvrant à César un complot tramé contre sa vie.